La Voix de la librairie, Québec. Mon nom est Catherine Doré et je vous souhaite la bienvenue à cette émission qui est enregistrée à la librairie Saint-Jean-Baptiste et diffusée en direct sur Radio Fiat Lux. Vous pouvez aussi écouter l'émission le lendemain après-midi sur les ondes de CKIA, soit le mardi à 15h30. Aujourd'hui, on a plusieurs sujets à l'émission. Nous allons parler d'abord d'Albert Camus. Vous savez que c'était le 50e anniversaire de sa mort en novembre. On en a un peu entendu parler dans les médias, mais pas suffisamment à mon avis. Alors, j'ai invité Émile Grigorov, qui est un spécialiste de Camus. Et on va parler ensemble d'une œuvre de Camus, parce que Camus, c'est vaste. On va s'attarder donc à une de ses œuvres, à un essai qui s'appelle « L'homme révolté ». Ensuite, on va parler du marché de l'information sur les consommateurs avec Benjamin. On va se demander comment fonctionne ce marché parallèle de l'information et à qui ça sert. Ensuite, on va avoir une entrevue événement du mois, une entrevue qui va nous permettre de présenter un spectacle qui va avoir lieu à la librairie Saint-Jean-Baptiste. Il s'agit d'un invité surprise, donc je vous dis pas encore de qui il s'agit, mais ça va être vers 7h30, c'est-à-dire 4h15 dans le cas de CKIA. On va terminer l'émission avec Martin, qui va parler de Science du secret et de Cicada 3301. Faites-vous-en pas, moi non plus, je ne sais pas ce que c'est. On va l'apprendre tout à l'heure. Alors, on va débuter comme d'habitude par une pause musicale, une pièce choisie par Émile. Il s'agit d'une chanson que vous connaissez peut-être, ça s'appelle « Le chant des partisans ». Moi, je ne la connaissais pas. J'ai fait quelques recherches parce que j'avoue que les paroles m'ont beaucoup intriguée. Je trouvais que le texte était assez dur. Et en faisant des recherches, je me suis rendu compte que ces paroles-là étaient l'hymne de la résistance française durant la Deuxième Guerre mondiale. Et j'ai appris que la mélodie date des périodes de soulèvement bolchévique en Russie. Et il en existe plusieurs versions sur le web. Moi, j'ai choisi celle de Léo Ferré. Alors, on écoute « Le chant des partisans » et on revient ensuite avec Émile Grigorov et « L'homme révolté » de Camus.
Entendu le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Amis, entendu les cris sourds du pays qu'on enchaîne. Oh, et partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang. Et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il est des pays où les gens au creux des lits. Ici nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté vous écoute. Amis, entendu le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Amis, entendu les cris sourds du pays qu'on enchaîne. Oh, et partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme.
Dans l'épreuve quotidienne qui est la nôtre, la révolte joue le même rôle que le cogito dans l'ordre de la pensée. Elle est la première évidence. Mais cette évidence tire l'individu de sa solitude. Elle est un lien commun qui fonde sur tous les hommes la première valeur. Je me révolte, donc nous sommes. Bonjour Émile.
Bonjour Catherine.
Cette phrase est tirée évidemment de L'homme révolté de Albert Camus. L'homme révolté est un essai qui a été publié en 1951. Et lorsque je l'ai lu ces derniers jours, j'ai pensé à la Deuxième Guerre mondiale, j'ai pensé au stalinisme qui régnait à ce moment-là en Russie, et je me suis demandé dans quel esprit Camus avait écrit ça.
Il faut peut-être d'abord préciser qu'il a porté ce livre en lui pendant 10 ans. Dans ses carnets, on voit des remarques, des plans de travail, des notes liées à cette problématique qui date depuis 1941, donc en pleine guerre. Oui. Il a travaillé longtemps sur l'homme révolté. Et puis la situation était très dynamique. Il a dû plusieurs fois reconsidérer, refaire, réécrire, repenser les choses. Et il a été surtout marqué par les révélations concernant les camps de concentration en Union soviétique.
Oui.
Il n'y a que lui et Hannah Arendt parmi les grands intellectuels qui ont osé parler des crimes du régime stalinien.
Oui.
Entre parenthèses, j'aimerais juste dire que Hannah Arendt, quand elle a lu surtout le mythe de Sisyphe, elle s'est prononcée à propos de Camus en disant que c'est le meilleur homme de la France.
Ah oui.
Ouais. Le meilleur homme.
Donc, Hannah Arendt et Albert Camus ont été les premiers à dénoncer les goulags et le régime...
Les premiers intellectuels, parce qu'il y avait déjà des témoins.
Oui, tout à fait, oui.
Vous connaissez peut-être le procès Kravchenko, notamment en France... un procès, le Parti communiste contre un rescapé du goulag. Camus, il a été très, très, très mal pris par cette nouvelle.
Cet événement.
Parce que d'un côté, il était lié à la gauche intellectuelle française.
Tout à fait.
Sur la rive gauche de Paris. De l'autre côté, il pouvait pas faire aucun compromis avec sa propre conscience morale. Et en fin de compte, c'était un peu dans cet esprit, il se trouvait dans cet état lorsque le livre a paru en 1951. Il a été reçu de façon très, très ambiguë. Il a été salué par la droite, d'ailleurs.
Ah oui?
Oui, même par la droite chrétienne, catholique. Par le centre-droite, par les gaullistes. est très, très mal reçu par
la gauche. Alors, quand Camus parle de l'homme révolté, de quoi parle-t-il exactement? Comment doit-on comprendre cette révolte?
À mon sens, quand il parle de l'homme révolté, il parle de l'homme honnête, de celui qui ose exprimer et suivre son indignation à l'égard de l'injustice. Sans aucune référence à des prises de position politique.
C'est ça qui était original ou nouveau, je pense, avec Camus, c'est le fait de ne pas défendre une idéologie.
Absolument. Il était considéré longtemps comme faisant partie, disons, comme appartenant à la gauche, bien sûr, surtout à cause de ses écrits dans lesquels il dénonçait la politique coloniale de la France en Algérie. Mm-hmm. Mais je suis tombé récemment dans la lettre où il s'adresse à Sartre après la publication d'un compte-rendu très, très défavorable à l'égard du livre.
C'est une brouille célèbre, effectivement. Oui, Camus a été très, très mal reçu par Sartre. Et Sartre, c'était un intellectuel respecté à ce moment-là. C'était celui qui avait vraiment le dernier mot. Là.
Camus, lui aussi.
Donc c'était les deux grands là, qui se prenaient face à face.
Puis il y a même des commentateurs qui vont dire que cette brouille, au fond, c'était comme un combat pour le tronc intellectuel.
Ah oui.
Qu'il y avait des motifs, une motivation un peu malsaine du côté, bien sûr, de Sartre, de la revue Les Temps modernes.
Oui.
Mais dans cette lettre... parce que vous avez évoqué notamment cette prise de distance par rapport aux idéologies. Il dit, donnez-moi juste pour trouver l'extrait, parce qu'il est très très significatif à cet égard. Voici. On ne décide pas de la vérité d'une pensée selon qu'elle est à droite ou à gauche, et moins encore selon ce que la droite et la gauche décident d'en faire.
Oui.
Si enfin la vérité me paraissait à droite, j'y serais. Voici la valeur suprême pour Camus, c'est la vérité, factuelle.
Oui.
Non pas,
oui, c'est ce que j'allais demander, la vérité où est-elle? Ouais. C'est pas toujours facile de le savoir non plus.
La vérité face à laquelle on s'indigne, elle est visible. C'est l'injustice, elle saute aux yeux. Et c'est a posteriori qu'on va aller chercher des arguments, qu'on va aller chercher à la justifier, et ainsi de suite. C'est ça la position de Camus.
Qu'est-ce que Sartre reprochait à Camus, exactement?
De ne pas avoir compris le cours de l'histoire, en deux mots. Et de ne pas vouloir se salir les mains. En s'engageant dans...
De ne pas endosser un parti une idéologie.
Absolument. C'est en 1951. Sartre, il est très très proche. Il n'a jamais été membre du Parti communiste, à la différence de Camus, qui était membre du Parti communiste en Algérie. Mais il était très proche et il côtoyait les communistes. Il se mettait toujours de leur côté. Jusqu'à la parution de la critique de la raison dialectique, là, c'est la rupture entre Sartre et le Parti communiste français, encore plus violente, mais c'est après la mort de Camus.
Dans L'homme révolté, Camus fait l'apologie de la révolte, mais il ne se prononce pas en faveur de la révolution. Quelle est la différence entre ces deux concepts?
La différence est essentielle pour Camus, mais j'aimerais partir de loin, pour ainsi dire, de l'indignation notamment. de cette indignation, indignation face à la justice, à l'injustice. C'est surtout, d'abord et surtout, un sentiment.
Oui.
Quand mon cœur me dit non, ça ne se peut pas, ou bien j'en ai assez, je ne supporte plus ce spectacle indigne.
Oui.
Et c'est la source, selon Camus, de toute révolte authentique. La source, le point de départ. Mais ce qui, au fond, provoque l'indignation, c'est quelques états de démesure, de déséquilibre, de violence. Et là, on voit une intuition profondément grecque chez Camus. On s'indigne lorsque la mesure, le métron grec, est rompue. Donc pour lui, justice équivaut mesure.
Oui.
Et donc la révolte est la source, la révolte dont la source est l'indignation, vise, sciemment ou non, de rétablir l'équilibre.
Donc si je comprends bien, révolte et indignation, c'est lié.
Oui.
C'est presque la même chose.
Oui, c'est presque...
C'est lié.
L'indignation est le sentiment qui est à la source d'une action matérielle. Qui est
la révolte.
La révolte.
La révolte est une action.
La c'est révolte pas est un une action. Non. L'indignation, c'est le sentiment. Oui. La révolte, Camus lui-même, il s'est indigné face à l'injustice nazie, pour ainsi dire.
Oui.
Et puis, il s'est engagé dans la résistance.
D'accord.
Matériellement.
Et ça, c'est la révolte.
Ça, c'est la révolte.
Et qu'est-ce que la révolution?
La révolution, c'est... toute révolution est un saut dans la démesure.
Ah.
Parce que, et là, Camus, il est très, très cohérent. Sa pensée est très cohérente parce que la révolution tue elle à la révolte, elle amadoue la révolte et finit par devenir dictature.
Oui, je comprends.
La révolte commence, comme vous venez de citer Camus, par un non. C'est la capacité de dire non à l'injustice, alors que la révolution impose un oui à tout le monde. Un oui obligatoire pour tout le monde. Et en fin de compte, elle impose le nihilisme parfait,
oui.
La révolution, parce que, là je pense à un autre ouvrage de Camus, Caligula,
oui.
C'est le dictateur, le nihiliste parfait, c'est le dictateur qui affirme tout m'est permis. C'est un oui.
Oui.
Donc ça efface la révolte. Et ce n'est pas par hasard que les vrais, disons, révolutionnaires, partout, qu'il s'agisse de la Révolution française ou de la Révolution russe, étaient les premiers victimes de la Révolution, de la terreur révolutionnaire. Mmh. Les gens qui étaient des vrais hommes révoltés. Donc, ils ont fini par perdre leur vie.
Je suis tombée sur un extrait ici que j'ai trouvé très, très, très contemporain. C'est une courte phrase. « L'esprit de révolte n'est possible que dans les groupes où une égalité théorique recouvre de grandes inégalités de fait. » Et tout le mouvement des indignés, il y a quelques années, c'était ça. C'était ça. C'était une égalité théorique recouverte par de grandes inégalités de fait. On a l'impression que l'homme révolté, tout à coup, est extrêmement contemporain.
Oui, Camus, on est en train de le redécouvrir à travers le monde. J'ai amené juste une petite partie des revues consacrées à lui cette année, à cause du centenaire, bien
oui.
sûr, de sa naissance, mais il y a comme... une tendance à la relecture profonde de Camus et ça date depuis quelques années. Notamment, ça coïncide avec le mouvement des indignés.
Oui.
Donc, ce qui était pour Camus, ce qui était essentiel, c'était de ne pas mettre fin à la révolte, à cette capacité de dire non. parce que l'injustice, de toute façon, elle va exister toujours, toujours. Oui. Et c'est la révolution qui met fin à la révolte et se transforme en dictature. Pire que disons que le pouvoir qu'elle a délogé, auquel la révolution a mis fin. C'est ça, c'est la façon dont je conçois les idées principales dans l'homme révolté.
Et est-ce que vous sentez que le mouvement des indignés qui a pris corps un peu partout dans le monde il y a quelques années s'inscrit dans cette révolte, dans cette définition de la révolte?
Oui. Et je vous dirais, je vais vous communiquer un fait. Le nom de Camus est cité dans les réseaux sociaux à travers le monde tous les 2 minutes.
Ah oui.
Toutes les 2 minutes, son nom apparaît dans les réseaux sociaux.
Donc, on redécouvre Camus.
Oui, il a été complètement oublié.
Tout à fait.
À cause surtout de l'attaque idéologique des Sartriens en France. Mais surtout à cause de... pas à cause, mais un essai a beaucoup contribué. Un essai de Jean-Jacques Brochier, intitulé... j'ai oublié le titre, mais là, je pense que c'était même le titre. J'ai lu des extraits parce que je n'ai pas pu le lire
au complet. Le
tout, oui, mais il a traité de philosophe pour les classes terminales.
Ah bon?
Oui, dans cet essai-là, mais cet essai, il a été publié en 1970 ou 71. Bon, je ne suis pas sûr. Soit 70, soit 71. On est en plein structuralisme, en plein mort de l'homme
et tout ça. Balayé.
Bon, c'était pas intéressant. Un humanisme cohérent d'une allure morale, c'était pas à la mode à cette époque-là. Et cet essai était pas mal plus populaire en France. C'était l'image de Camus. Un bon écrivain,
ouais.
Mais un mauvais philosophe. Et puis on le rangeait du côté de cette social-démocratie dépassée, de l'humanisme absolument foutu. Et, bon,
jusqu'à quel point l'intervention, la prise de position de Sartre a joué sur cette opinion-là qu'on s'est fait de Camus?
Sartre lui-même, il était victime de cette tendance intellectuelle. Lui-même, parce que Sartre lui-même, c'est un humaniste.
Oui, ben oui.
Ils s'inscrivent dans la même tradition. Et moi, je crois que la brouille était plutôt un malentendu.
Oui, hein.
C'est pénible, encore aujourd'hui, de lire le petit texte que Sartre a rédigé 3 jours après la mort de Camus. Il dit, demandais toujours qu'est-ce qu'il va dire à propos de ça, on était en brouille, oui. On a rompu, mais je n'ai jamais cessé de penser à lui. Donc, c'était plutôt un malentendu. Une mauvaise lecture, à mon sens, de la part de Francis Janson, celui qui a rédigé
le fameux article.
Une mauvaise réaction de la part de Camus, une réaction très hautaine, parce qu'il ne s'adresse pas à Janson, il s'adresse à Sartre, comme si l'auteur de
l'article n'existait pas.
Bon, on ne saura peut-être jamais quelles étaient les vraies causes de tout ça, mais je crois que quand même ils vont aller toujours ensemble, Sartre et Camus.
C'est tout le temps qu'on a, malheureusement, ils vont devoir conclure. Merci beaucoup, Émile.
Merci, Catherine.
Émile Grigoroff enseigne la philosophie au cégep Xavier Garneau et à l'Université Laval. Et d'ailleurs, il va donner un cours sur Albert Camus en janvier. Alors, avis aux intéressés. David avait prévu peut-être faire une intervention. Je ne sais pas s'il a le temps de venir. On va devoir aller à la pause d'une seconde à l'autre, David. Est-ce que tu es prêt? Tu as un micro ici.
Alors... En fait, c'était pour revenir un peu, pardon, Émile. C'était pour revenir un peu sur les goulags et la torture qu'on y pratiquait, mais là, de l'autre côté de l'océan, chez les Américains. Alors, une petite citation. Je me souviens plus qui l'a dit et je voudrais pas entacher le nom d'un des anciens directeurs de la CIA.
Alors,
je ne vais pas le dire. Ils sont pas tous dans le même panier, évidemment. Alors, pourquoi je ne vois pas pourquoi les gens
il faut aller à la pause là.
Allons.
Oui.
Alors, les mauvais traitements physiques et autres traitements dégradants sont réprouvés. Non seulement parce que c'est mal, mais parce que l'histoire a prouvé que c'est inefficace. Alors voilà. Ah non, c'était Richard Stolz, le sous-directeur des opérations de la CIA. Pardonnez-moi. Alors voilà, on ne torture pas à la CIA puisque c'est dégradant et l'histoire a prouvé que c'était inefficace. Merci.
Merci beaucoup, David, pour nous apprendre des choses comme ça. On va faire une pause musicale avant d'aller... pour les publicités de CKIA. Et ensuite, au retour, on va plonger dans l'information marketing avec Benjamin, qui a choisi pour nous une sonate de Beethoven, le deuxième mouvement de la pathétique Adagio Cantabile, que j'ai trouvé interprété par Wilhelm Kempf. Thank you. Bonjour, Benjamin.
Bonjour, Catherine.
Benjamin, on nous dit, enfin, on entend ça souvent, qu'on est dans la société de l'information. Et en fait, à chaque fois qu'on paye avec une carte dans un commerce, effectivement, on donne de l'information. Quelle information on donne et à qui?
Bien, c'est ça. Donc, la chronique que je vous ai préparée aujourd'hui, c'est une chronique sur le marché de l'information à propos des consommateurs. Donc, c'est un marché qui est fort simple, finalement. Donc, le produit qui est échangé sur ce marché, c'est en réalité des listes d'informations sur les consommateurs ainsi qu'un profil, un certain nombre de profils qu'on peut effectuer sur les consommateurs. Alors, ce sont des listes qui sont créées par les compagnies eux-mêmes, par les compagnies elles-mêmes et qui sont vendues sur un marché par la suite. Donc, il y a plusieurs méthodes pour élaborer ces listes-là. Donc, il y a des concours qui peuvent être effectués. Donc, quand on participe à un concours dans un restaurant ou dans des grandes chaînes, des grandes compagnies, on divulgue de l'information. Donc,
notre adresse, notre numéro de téléphone, des choses comme ça.
Exactement. Donc, notre code postal. Donc, là, ils peuvent nous localiser géographiquement. Et on dit également à quel type de concours on participe. Donc, on donne de l'information à ce moment-là. Il y a d'autres techniques de recueillement d'informations, comme des fois, ils demandent simplement le code postal. Donc, à ce moment-là, on divulgue notre code postal, puis ils sont capables de nous localiser géographiquement. Et ce qu'ils font avec ça, c'est qu'ils établissent des listes de données qu'ils peuvent revendre à un autre parti en faisant un certain profit. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que, bon, malgré le fait qu'ils font un concours, et là, ils vont faire tirer, je ne sais pas moi, un voyage dans le sud d'une valeur de plusieurs milliers de dollars, mais en réalité, la liste d'informations qu'ils obtiennent et qu'ils revendent sur le marché, ben, ils font un profit avec cette liste-là. Donc ça, c'est des méthodes possibles. Sinon, il y a des méthodes encore plus efficaces qui sont en réalité les cartes de fidélisation.
Ah,
donc quand
oui.
on parle de Air Miles ou Aéroplan, en fait, c'est des manières de, d'une part, fidéliser les consommateurs, c'est-à-dire de les rendre captifs à ton entreprise, mais aussi recueillir de l'information sur eux. Notamment, si on sort notre carte Air Miles, ben, ils vont savoir en quel endroit et à quel moment on a acheté un certain nombre de produits. Mais on va également savoir les produits qu'ils achètent. Et là, ça fait une base de données plus complète et plus facilement comptabilisée.
Mais en fait, c'est ça. Ils font des statistiques avec ça. Ils font des recoupements avec les différentes informations qu'ils prennent. Parce que là, juste comme ça, avoir un code postal, tout ce que ça dit, c'est où est-ce que tu restes. Mais
Exactement. Fait que là, ce qu'ils font, c'est que ils vont revendre ça à des entreprises qui sont spécialisées en l'élaboration de profils de consommateurs. Donc, en fonction de l'information qu'ils reçoivent, ils sont capables de déduire des comportements du consommateur et ainsi créer des profils de consommateurs et les retourner aux entreprises qui, eux, vont utiliser l'information afin de maximiser leurs profits puis de modifier leurs techniques de vente.
Mais ça prend un programme informatique pas mal élaboré là, pour réussir à faire un portrait de consommateur à partir d'informations aussi disparates que un achat à un endroit, une adresse.
Oui, ça prend des programmes informatiques élaborés, effectivement, mais ça, c'est des programmes informatiques qui sont connus. Là, donc, c'est ils font des corrélations entre les listes d'informations, puis ils sont capables de créer des catégories de consommateurs, puis de faire en sorte que tel consommateur, en fonction de ses comportements, peut être localisé dans telle ou telle catégorie avec une certaine probabilité. Puis, c'est quand même un marché extrêmement lucratif. J'ai pas trouvé exactement le chiffre précis par rapport au volume d'échanges de manière monétaire là, dans ce marché-là, le marché de l'information sur
oui,
les consommateurs.
Oui, c'est ça. C'est...
Mais j'ai quand même trouvé une compagnie qui illustre la quantité importante, l'ampleur finalement de ce marché-là. C'est une compagnie qui s'appelle Alliance Data. Alors déjà, au nom assez révélateur, qui a été fondée le 2 septembre 1996. Alors, c'est par une coïncidence inouïe, son 17e anniversaire aujourd'hui.
Ah, tiens!
Alors, on lui souhaite un joyeux 17e
anniversaire. Ouais.
C'est une compagnie qui est née en 1996 d'une fusion de deux compagnies, donc JCPenney's Credit Card Processing Unit, donc encore un nom assez révélateur, puis une deuxième compagnie, The Limited Credit Card Bank Operation. Donc, c'était des compagnies qui sont spécialisées dans justement cette agglomération d'informations sur les consommateurs. Et très rapidement, c'est une compagnie qui devient assez énorme par la convergence capitaliste. Ils vont acquérir dans les 17 dernières années des compagnies comme Air Miles, dont on parlait tout à l'heure, oui. D'autres compagnies, Epsilon, Abacus, Vertex, qui sont toutes spécialisées dans...
Ça doit représenter quand même assez d'argent, là.
Effectivement, on parle d'une compagnie multinationale d'environ 10 000 employés, un revenu d'à peu près 3,5 milliards de dollars avec 400 millions de profits nets, puis 70 bureaux à travers le monde. Et c'est une compagnie qui est justement spécialisée dans l'information sur les consommateurs. Alors, les compagnies comme, je sais pas, Target ou Walmart ou IGA, donc les grandes compagnies de vente au détail, que ce soit des compagnies financières ou des compagnies dans l'alimentation, vont vendre de l'information à ces compagnies-là qui, elles, vont, comme Alliance Data, regrouper les informations et les revendre sur le marché en faisant du profit. Et c'est assez intéressant quand même de connaître ces faits-là.
Oui,
donc, à
oui.
chaque fois qu'on utilise notre carte Air Miles ou des cartes dites de fidélisation qui vont nous donner, au bout de 25 ans d'utilisation, peut-être un voyage, bien derrière
on
ça...
On le mérite, notre voyage.
C'est ça, derrière ça, finalement, on donne l'information à ces compagnies-là qui peuvent orienter leur campagne pas électorale, mais de publicité, oui. puis leur campagne de marketing.
Mais quel regard peut-on porter là-dessus? Parce qu'en fait, moi, j'ai souvent entendu des gens qui ont fait l'éloge de ça en disant que ça permet d'offrir des produits mieux ciblés aux consommateurs, que dans le fond, c'est à l'avantage du consommateur, qui ne se fait pas déranger par des publicités qui ne le concernent pas, qu'on cible pour des produits qui l'intéressent, là.
Mais effectivement, c'est l'argument.
Je ne sais pas trop quoi en penser, là. Je te demande ton avis.
Mais effectivement, c'est lorsqu'on va lire les pages web, par exemple, qui donnent la mission d'Alliance Data, ben on constate qu'effectivement, il y a cet argument-là qui sort, que finalement, dans cette situation-là, les deux parties sont mutuellement bénéfiques.
C'est ça.
Mais ce qui arrive, c'est... donc, les deux parties sont gagnantes, mais à mon avis, là, c'est mon opinion, c'est qu'il y a une partie qui est plus gagnante que l'autre.
Oui, on sait laquelle.
c'est évidemment la partie des compagnies multinationales financières qui ont, entre autres, qui ont beaucoup d'informations sur la nature humaine, puis finalement, qui peuvent orienter les choix comportementaux des individus afin de maximiser leurs profits. Et peut-être... pour le plaisir ici, vous lire une partie de ce qui est écrit dans la vision et dans la mission d'Alliance Data. Qui a 17 ans aujourd'hui. Oui. Et c'est vraiment intéressant de s'attarder à la nature du langage qui est utilisé. Alors, ça va comme suit. Alors, la mission d'Alliance Data et de ses partenaires est de développer une compréhension unique du comportement du consommateur. Nous utilisons cette compréhension pour créer et organiser des solutions personnalisées qui changent le comportement du consommateur et permet à nos clients de construire une relation mutuellement bénéfique.
Voilà.
Alliance Data sait que les données transactionnelles ne procurent qu'une partie de la solution. Lorsque ces données sont combinées avec des données démographiques et psychographiques, alors un mot que je ne connaissais pas, ainsi qu'à la puissante analyse du comportement du consommateur, nous créons des profils des consommateurs plus complets. En localisant les motivations et les préférences, nous pouvons envoyer le message parfait dans les mains du consommateur, dans la bonne voie, au bon moment, ce qui engendre un marché plus efficace. Comment le savons-nous? Parce que nous organisons des listes de données multigenres sur plus de 160 millions d'entrées. Nous avons prouvé que savoir plus, c'est vendre plus.
Oh, c'est formidable.
Donc, c'est vraiment intéressant lorsqu'on...
Bien, c'est le vocabulaire, hein, puissante, efficace, savoir, c'est...
C'est le vocabulaire utilisé. Moi, il y a quelque chose qui m'intéresse, qui m'interpelle particulièrement dans la lecture de ce court texte-là, qui est dans la vision d'Alliance Data. C'est vraiment l'aspect d'organiser des solutions personnalisées qui changent le comportement du consommateur.
Oui, l'idée de changer le comportement du consommateur, effectivement, c'est effectivement très puissant.
C'est ça. Et là, c'est intéressant à ce moment-là parce qu'il y a une expérience célèbre dans l'histoire du marketing qui a été réalisée sur justement le libre choix du consommateur. Alors, l'expérience était la suivante. Dans une salle d'attente, dont j'oublie la nature du bureau, là, de la salle d'attente, mais il y a un plat de bonbons. Et devant le plat de bonbons, c'est écrit « Prenez autant de bonbons que vous voulez ». Et là, il y a une caméra, ils vont filmer les gens, et ils vont regarder leur comportement. Et là, les gens vont prendre la cuillère et vont remplir un petit sac de bonbons et ils vont prendre autant de bonbons qu'ils veulent. Mais ce qu'ils font au fil des jours, c'est qu'ils changent la grosseur de la cuillère. Et évidemment, bon, plus la cuillère est grosse, plus les gens vont en prendre. Mais ça, c'est donc une expérience extrêmement simple. Qui est intuitive. Donc, plus la cuillère est grosse, plus on prend de bonbons. Mais c'est intéressant de réfléchir par rapport au libre choix du consommateur. Alors, on dit, prenez autant de bonbons que vous voulez, mais en réalité, notre comportement est conditionné par rapport aux paramètres du choix qu'on a effectué.
Oui, puis c'est sûr que dans ce monde où on commence à se rendre compte des limites de l'économie de croissance, puis de la société de consommation, puis de la manière dont c'est en train de nous perdre, tout ça, ça devient très pertinent, là.
Oui,
ce genre de...
d'expérience. Oui, c'est comme une réflexion sur le libre choix VS le choix orienté. Donc, plus ils accumulent de l'information sur les consommateurs, bien, plus ils sont capables d'orienter leur choix en fonction des profils psychologiques que les consommateurs vont avoir. Puis ça peut aller plus loin que ça aussi.
Il nous reste quelques minutes.
Oui.
C'est parce que je faisais l'éducation.
Okay, c'est bon.
Il nous reste quelques minutes. J'aimerais ça peut-être, en terminant, qu'on aborde la question de des lois qui gèrent ça. Parce qu'en fait, en ce moment, il n'y a aucune législation qui existe concernant l'information et l'utilité qu'on fait de cette information-là.
Bien, en fait, je ne suis pas un expert par rapport aux lois. Il y en a certainement des lois, là. Par rapport aux corrélations qu'on peut faire avec les listes.
Okay.
Je crois qu'il y a certaines lois qui vont encadrer ça. Mais encore, il y a quelques années, on réussissait à trouver sur Internet, on pouvait acheter ces listes-là pour quelques milliers de dollars.
Ah oui.
On retrouvait des listes qui nous disaient, par exemple, les amateurs de gambling, les gens qui possédaient des voitures de luxe. On pouvait acheter ces listes-là sur Internet. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est un peu différent. Il y a aussi un certain nombre de réglementations qui sont en train de naître à propos de Facebook aussi, parce qu'on peut aller extrêmement loin aujourd'hui
grâce
à Internet.
Oui.
C'est que
les gens donnent l'information avec...
les gens donnent l'information.
J'ai entendu un
néologisme fort intéressant il y a quelques semaines, c'est l'auto-big brotherisation.
Oh, wow!
Hein, c'est un néologisme intéressant parce que c'est... Les gens vont eux-mêmes révéler leur information, notamment, par exemple, en cliquant « j'aime » sur Facebook. Mais après ça, il y a des compagnies derrière tout ça qui vont aller chercher cette information-là. Ils vont les corréler avec d'autres listes, puis finalement les revendre avec du profit sur le marché pour établir des profils de consommateurs. Puis j'avais lu un article intéressant justement par rapport à ça, là, quand on clique « j'aime » sur Facebook. C'était un article qui s'intitulait « Vos j'aime vous trahissent ». C'était sur Radio-Canada le 15 mars dernier. Puis il y a une recherche à l'Université de Cambridge qui a été menée sur la prédiction des traits de personnalité. Et à quel point ça peut être rendu puissant là, de créer des catégories, des profils psychologiques de personnes et de consommateurs. Et finalement, en fonction de leur comportement, prédire dans quelle catégorie ou quel profil ils ont. Par exemple, quand on clique plus de 300 fois sur Facebook des j'aime sur différents sites web, bien, ils peuvent prédire à 90% quel est le genre de la personne.
Ah oui.
Et avec 300 j'aime, ils peuvent prédire aussi à 75% l'âge de la personne. Et ils peuvent aller plus loin, ils peuvent aller...
Et c'est sophistiqué.
Donc l'orientation sexuelle, l'appartenance religieuse... le QI, ils peuvent même essayer de déterminer le QI de la personne, à savoir si c'est des fumeurs ou des non-fumeurs. Donc, il y a derrière nos actions, donc sur Facebook ou sur Internet, et je crois savoir que vous allez parler de la NSA tout à l'heure.
Oui, avec Martin.
C'est rendu extrêmement loin.
Oui.
Là, donc avec,
on pourrait refaire toute une entrevue sur Facebook et sur Internet.
Oh,
et
oui.
Sur, moi, je me questionne entre autres beaucoup à savoir si c'est public ou si c'est privé ce lieu-là. Est-ce que le lieu Internet... Mais en fait, je pense qu'il y a de tout. On met de l'information privée, puis on met de l'information publique en sachant que ça va être public, puis on met de l'information en pensant que ça va rester privé.
Mais en réalité, tout ça est un peu...
Mais
dès qu'on met quelque chose sur YouTube, dès qu'on met quelque chose sur Facebook, ça devient tout à fait public. Là, je sais qu'on peut avoir quand même des...
C'est ça, on est supposé pouvoir limiter à qui a le droit de voir ça, mais...
Exactement, mais selon les révélations d'Edward Snowden au début d'année 2013, on réalise que finalement, les compagnies comme Facebook, Apple, Amazon, Google, Microsoft vont vendre de l'information à Prism, on divulgue de l'information, et là, on peut imaginer qu'ils sont encore beaucoup plus poussés que des compagnies comme Alliance Data, qui font déjà quand même des choses assez incroyables en ce sens.
Alors, en terminant, qu'on se le dise, tout le monde, c'est public. Attention à ce que vous dites.
Exactement. En fait, l'émission, si je comprends bien, va se retrouver sur Internet. Donc, on participe à notre propre auto-big-brotherisation.
Tout à fait. Merci beaucoup, Benjamin.
Ça me fait plaisir.
Benjamin, juste en terminant, il enseigne la physique au Cégep Sainte-Foy.
À Garneau.
Au Cégep Garneau. Ah, tu vois, je pensais que t'enseignais au Cégep Sainte-Foy. Et il fait aussi de la radio.
Oui.
Lorsque je lui demande.
C'est bon,
merci, Benjamin.
Bonne soirée.
David,
oui.
Tu es de retour avec nous.
Cette fois, je suis prêt. Et je me demandais même si j'avais une demi-seconde pour une petite blague.
Oh, c'est pas une citation, c'est une blague.
Non, j'ai une citation tout à fait à propos. Mais j'avais aussi une blague, mais on peut la laisser tomber. Elle allait un peu avec le QI et les j'aime sur Facebook, mais on va laisser tomber. On va plutôt aller à Montesquieu, qui, dès 1748, avait vu l'arrivée d'Internet.
J'ai un doute, là.
Ah, sur Internet, ça disait qu'il l'avait prévu.
Ah oui?
Oui, non, je plaisante. Donc, Montesquieu, ça me fait penser à ton truc data-truc-muche, là.
Alliance data.
Oui, alliance data. Alors, on pourrait un peu qualifier ça d'espionnage. Alors, ma citation sur l'espionnage de Montesquieu, c'était « L'espionnage serait peut-être tolérable s'il pouvait être exercé par d'honnêtes gens. »
Alors,
non, c'est tiré de l'Esprit des lois en 1748.
De Montesquieu.
De Montesquieu, oui, c'est ça. Alors,
Idée.
C'est une. Ben oui, non, mais c'était un peu ironique, évidemment.
Ouais.
Alors, c'est ça. Alors, je laisse tomber ma blague sur les points du globe.
Oui, c'est correct.
Au revoir.
On va faire une pause. On arrive à notre entrevue événement du mois. Alors, je vous avais dit qu'on aurait un artiste en studio qui nous parlerait d'un spectacle qui va avoir lieu à la librairie Saint-Jean-Baptiste. On va écouter d'abord une de ses pièces, « Jantes d'âme » de et par Gab Paquette.
Je chevaucherai pour son écu les contrées où jadis vécurent tous ces héros de chevalerie qui périrent pour les broderies de cette gentille demoiselle à qui j'envoie cette hirondelle, à qui j'adresse ce parchemin, pour qui je chante sur le chemin. Mais que désirez-vous, gentille dame, la plus belle du royaume? Je traverserai les montagnes, je brûlerai les châteaux d'Espagne, je transpercerai son mari à la gloire de Vierge Marie, dans le donjon d'où elle soupire, qu'elle daigne me dire ce qu'elle désire. Est-ce un dragon, est-ce un empire, est-ce ma passion, est-ce ma lyre? Que désirez-vous, gentille dame, la plus belle du royaume?
La, 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 la.
Que désirez-vous, gentille dame, la plus belle du royaume? Je descendrai de ma monture, je retirerai mon armure, je me signerai de la croix, j'irai la présenter au roi sous les étoiles qui scintillent. Si elle me laisse voir sa chemise, que désirez-vous, gentille dame, la plus belle du royaume?
La, 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 la.
Que désirez-vous, gentille dame, la plus belle du royaume?
C'était donc Jantes d'âme de et par Gab Paquette. Bonsoir, Gab Paquette.
Bonsoir.
Comment ça va?
Ça va très bien.
Tu viens nous présenter un spectacle de Noël, un show de Noël.
Eh oui, et pas n'importe quel. Je serai avec le Saint-Jean-Baptiste Country Club,
oh,
qui est une belle gang composée de Jane Earhart, Simon Paradis, moi-même, Anne-Christine Guy. Je crois que Sarah Jane aussi va être là. Il va y avoir beaucoup de monde, en fait. Sur la scène. Claudia Gagné à la basse.
C'est un concept, ça?
Country, c'est un concept. Country... le Country Club, oui, on est un club de bourgeois déchus.
Ah bon?
Oui. on faisait de l'équitation avant, là, du polo, des affaires de même, mais là, okay. On n'a plus d'argent. Fait que...
Plus de chevaux.
Fait que, c'est ça, on joue au bingo, puis on fait des parties de Noël à Librairie Saint-Jean-Baptiste.
OK. Hein? Et ça, ça va avoir lieu le 19 décembre?
Le 19 décembre, exactement, 6 jours avant Noël. Alors, si vous n'êtes pas parti à Cancun ou à Punta Cana...
Je ne devrais pas. J'ai des chances de pouvoir être là. Donc, c'est un Noël country, comme dans le bon vieux temps.
Ah, c'est pas si country que ça. En fait, le country club, c'est vraiment un concept, c'est ce qui n'a pas nécessairement rapport avec la musique. C'est-à-dire que c'est comme un club privé.
OK. Ouais. Mais vous, est-ce que c'est public, le spectacle?
Oui.
Privé-public, oui, tantôt,
oui.
Là.
Non, non, mais nous autres, on...
Vous autres, vous êtes un club privé,
oui,
dans un lieu
ensemble.
Public, ouvert à tout le monde,
exact.
Pour le show.
C'est pas du country.
C'est pas du country.
Ah, ça va être des chansons de Noël, comme David aime.
C'est vrai.
Ouais, je m'attends soit à me faire tirer...
J'en vois un qui grimace, là.
Je m'attends soit à me faire tirer des balles de carabine à plomb, comme les années précédentes, ou des boules de papier de Noël.
Mais vous allez vraiment faire des chansons de Noël?
Minuit chrétien, vive le
non,
vent.
Non, non.
Oui. Ah ben oui. Ah oui. Tu vas voir, ça va chanter les deux bras dans les airs.
OK. Oui. Fait que là, tu viens pas livrer ta production continentale?
Non.
Pas du tout?
Ben, je
c'est un party de Noël, c'est des chansons de Noël.
Peut-être en pousser une bien sous à la fin de la soirée. Là.
Comment ça va, Continental? C'est ton dernier CD que tu as sorti il y a quoi, un mois et demi?
On a sorti ça le 3 octobre au Cercle.
Trois mois?
C'est ça, ça fait 2 mois.
Comment ça se passe?
Hey, ça va super bien. On a fait le lancement à Montréal. Il y a eu plein de monde. Sinon, il y a de nouvelles affaires qui se passent par-ci, par-là. Là, des belles critiques, des belles réponses. On a passé,
oui.
J'ai passé à Infoman.
Ben, écoute, il y a quelqu'un qui m'a fait écouter ça.
Mm-hmm.
Comment tu as vécu ça?
Ben, en fait, je m'attendais pas à ça. Je pense que MCG il voulait me faire une surprise.
OK.
Puis ça a marché. Là, le monde, il pense qu'il riait de moi et tout.
Ben oui, tu trouves pas qu'il y a comme une confusion dans la manière de présenter...
Ben non, mais c'est parce qu'eux autres, ils niaisent le monde aussi.
Oui, je sais bien.
C'est ça, là.
Je sais bien, ça devient comme un troisième degré.
Mm-hmm. C'est sûr que Maxime Landry, lui non plus, il est pas sérieux, là.
Je sais pas, je suis pas sûr.
Le gars de Star Academy, là.
Oui.
Il niaise, là, ça se peut pas. En tout cas, fait que c'est ça, c'est ça qui va se passer. Mais sinon, ben oui, là l'album est disponible en MP3 gratuitement sur internet sur le site de Poulet Neige, qui est un label de Montréal.
J'ai vu donc, ça passer. Poulet Neige, tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est?
Ben, c'est un label indépendant de Montréal, dans le fond, qui ont plusieurs artistes signés. Là, puis c'est une étiquette qui à chaque année offre des CD gratuitement.
OK.
Donc, toi, tu peux commander ta liste de Noël, Poulet Neige.
OK.
Puis là, à le 25 décembre,
je reçois
le 24 à minuit, paf!
Je reçois ma liste de musique.
Exactement. Là, t'écoutes ça avec ta grand-mère, puis t'es super content.
Pour le party de Noël.
Ouais.
Est-ce qu'il y a une adresse pour le site? Est-ce que n'importe qui peut aller faire sa commande de liste de...
c'est gratuit. Ça s'appelle Poulet Neige.
Comme ça se dit.
Comme ça se dit, comme ça se prononce.
OK.
Ouais. Pareil.
Puis c'est un label de distributeur de musique de Montréal, tu dis?
Oui, c'est ça.
Peux-tu préciser un petit peu, est-ce que c'est de la musique, juste la musique alternative? Ou,
c'est de la musique assez alternative, là. Ils ont toutes sortes de trucs, là. Je peux pas te préciser exactement comment ça sonne, mais c'est la plupart, c'est francophone, puis...
Okay. La musique, donc, ça réunit là, plusieurs artistes du Québec qui font de la musique alternative.
Ouais, de Montréal, surtout.
De Montréal.
Oui, c'est ça.
Okay.
Il y a Yann Perrault qui est là-dessus. Il y a des autres. En tout cas, il y en a 59. Là, Ponctuation, Dan de Québec, qui ont Navé Confie. Il y a quand même une belle sélection.
Super.
Oui.
Puis, est-ce que vous allez être habillé en western? Le 25 décembre?
Le 25 décembre, je risque de mettre mon chapeau de cow-boy de Noël.
OK.
Non, je sais pas. Je sais pas, c'est sûr que je vais m'arranger pour avoir des sparkles là, dans les yeux.
Oui, oh oui, des étoiles dans les yeux.
Dans le cœur. Puis oui, on invite le monde en fait à s'habiller comme pour le party de famille. Là, habituellement. Il faut que tu sois propre.
Traditionnel.
Ben oui.
C'est bien.
Alors, on ne voit pas un arriver en jeans, là. Ah non, c'est pas vrai. Mais oui, on va se pimper, là.
Bien, on invite tout le monde à être là le 25. Pendant qu'on parle des spectacles, je vais parler des autres événements qui vont avoir lieu à la librairie durant le mois de décembre. Toi, ça, tu as toute la liste, toi aussi?
J'ai toute la liste ici. Il y a des affaires qui ont changé, Catherine.
On va faire ça ensemble.
D'accord. On en fait-tu un chaque?
Oui. Moi, je veux parler du vernissage de Marie-Claire qui va avoir lieu jeudi, le 5 décembre. Marie-Claire, c'est une artiste peintre
qui fait de la
peinture sur l'huile, peinture à l'huile sur bois et sur toile. Et c'est une fidèle auditrice de notre émission. Elle est quelque part ici, d'ailleurs.
Ben, c'est ça, elle est en train de dessiner en arrière.
Alors, on vous invite de venir voir ses toiles à la librairie. C'est très joli. Et elles sont à vendre.
C'est écœurant. Donc, le vendredi 6 décembre, c'est le lancement des éditions Le Lézard amoureux. Je crois qu'il lance 3 livres.
Oui.
C'est à 5h30, donc ça doit être un 5 à 7. Là.
Moi, j'ai le titre des livres. Est-ce que tu les as?
Non.
L'Orient Louisiana de Stéphanie Filion, La part sèche de Jean-Louis Lessard et L'incédé de Sarah Bernier.
Wow! Et le mercredi 11 décembre, 19h, une conférence sur les hiéroglyphes entre obscénité et ésotérisme. C'est une conférence qui est là. Pourquoi, Catherine?
Pour les cours dispensés par l'Institut de l'Histoire de la Mémoire.
Exact.
Tu t'impressionnes, hein?
Mais, hein?
et c'est donné par Yona Valdin.
Oui.
Et c'est une spécialiste en histoire ancienne et mythologie. Et c'est pour promouvoir la série Hiéroglyphes et Kabbale.
C'est ça. Et là, il y a une correction qui a été apportée au calendrier.
Ah oui?
C'est-à-dire que Claudia Gagné, l'octopus de son projet, ce ne sera pas le 13 décembre, ça va être le 12, en fait.
Jeudi 12.
Jeudi le 12, oui.
Ça, c'est le lancement d'un CD?
Non, c'est la belle Claudia qui lance rien et qui fait ses chansons à la basse et à la voix et la podorythmie.
La podorythmie?
Oui.
Qu'est-ce que c'est?
Ben, elle a comme des percussions attachées aux pieds. Elle joue de la bass, puis c'est comme si elle faisait le drum avec ses pieds en même temps. C'est super impressionnant.
Y a-t-il autre chose en décembre?
Ben oui. 14 décembre, le lancement du livre de poésie, du recueil de poésie de Maude Veilleux aux éditions L'Écrou, qui s'appelle « Les choses de l'amour à marde ».
Oh mon Dieu!
Ça promet, hein?
Oui, ça promet.
Ensuite, le jeudi 19 décembre, c'est le party de Noël avec le Saint-Jean-Baptiste Country Club. Ça va être débile. Après ça, le vendredi 20 décembre, il y a Sylvia qui fait du country folk pour vrai. Donc, c'est du vrai country. Là.
Hey, il nous reste 30 secondes, puis j'ai l'impression que David veut faire une autre citation. Est-ce qu'on a terminé?
Ben, je sais pas, il y a peut-être Coroner Paradis le 21 décembre.
Oh, c'est important ça, Coroner Paradis le 21 décembre.
Ben là, je l'ai dit, il est obligé.
Voilà, c'est bien. Merci, Gab. David?
Alors, tout ça, c'est trouvable dans la presse. Et voici une petite citation. Autant jadis, on avait le chevalet de torture. Aujourd'hui, on a la presse. Alors, c'est Oscar Wilde qui disait ça au 19e siècle.
C'est vrai?
Oui, c'est vrai, de vrai. Il disait d'ailleurs, la lecture des journaux prouve que seul l'illisible arrive. Mais je ne suis pas d'accord avec lui.
Ah, ça, je trouve ça formidable. Avant, on avait le chevalet de torture. Maintenant, on a la presse. Vraiment, je l'aime beaucoup. Alors, on va faire une dernière pause musicale et on revient avec Martin qui va nous parler de l'art du secret.
Thank you.
Alors, vous avez sans doute reconnu la musique thème du film James Bond 007. Et ça, j'imagine que ça veut dire qu'on va parler d'espionnage. Bonjour, Martin.
Bonsoir, Catherine. Bonjour. Je ne sais pas trop à quelle heure on passe à la radio.
Ça dépend. Là, c'est bonsoir. Là, c'est bonsoir, mais quand ça va être diffusé à CKIA, ça va être à 15h30, mais on va être rendu à 16h30 là, quand on va être diffusé. Tu m'as dit qu'on parlerait de Cicada 3301, de cryptologie et de stéganographie. Alors, il va falloir prendre ça un par un. D'abord, Cigata, qu'est-ce que c'est ça?
Ben écoute, cette semaine, je regardais mon Facebook et de temps en temps, je voyais un article qui parlait de ça, de Cicada 3301. Cigada, qui veut dire cigale en français, en réalité.
Ah, mon Dieu! Et... Pourquoi faire ça simple quand on peut faire ça compliqué?
Exact. Et c'est un insecte qui, aux États-Unis, vient d'éclore, dans le sens où il y a eu des nuages de ces bébites-là, il n'y a pas tellement longtemps. Et fait particulier, ces insectes-là se reproduisent à un rythme différent des autres. Ils naissent à tous les nombres... Ils reviennent à tous les nombres premiers.
Ah oui,
c'est-à-dire que, oui, à tous les 17 ans.
OK.
Pour éviter leurs prédateurs, qui, eux, ont un cycle plus normal. Alors, peu importe. Bref, je vois des articles là-dessus qui passent. Et là, je regarde ça, puis je me dis, non, lui, il ne parle pas des insectes. De quoi il parle exactement? Et il semblerait que, ben, en fait, c'est une vérité, c'est qu'il y a eu pas un concours, mais des puzzles sur Internet, si tu veux. Le premier a été lancé le 5 janvier 2012. Et c'est un gars qui se promenait, un mathématicien ou je ne sais trop, qui se promenait sur Internet comme ça, qui cherchait une distraction. Et il tombe sur une image de, justement, cette bête-là, en noir et blanc. Et en dessous, c'est marqué 3301. C'est signé comme 3301. Et à côté, il y a une espèce de GIF, là, si tu veux, une image qui dit « Nous cherchons des gens intelligents. Il y a des énigmes, etc., etc. » Alors, si vous voulez, trouvez la solution et on verra ce qui se passe après ça. Et là, à partir de là, ça a duré environ un mois. Et après ça, il y a eu une autre vague de ça qui a commencé le 5 janvier 2013. Et une suite d'énigmes de plus en plus complexes. Et il fallait résoudre à ce moment-là chacune de celles-là dans l'ordre pour trouver la prochaine, si tu veux.
Mais ça ne donne rien aux gens, ça, là. Les gens rêvent. On ne sait pas.
On ne sait pas du tout c'est quoi. Et c'est ça, présentement, le buzz, si tu veux, sur Facebook et sur Internet en général. Tout le monde se demande qui est en dessous de ça, de quoi il en retourne, qu'est-ce que c'est, cette histoire-là. Et les puzzles sont basé, si tu veux, sur la sécurité des données, sur la cryptographie, sur la stéganographie. C'est complexe. Là. On ne parle pas de « où est Charlie? » c'est une petite coche en haut.
Okay.
Et il y a plein de spéculations là-dessus. Est-ce que c'est un jeu, tout simplement? Ou encore, est-ce que c'est une méthode de recrutement pour la NSC, pour la CIA, pour le FBI? On ne sait pas
on
trop.
On est dans
tout
la monde, légende urbaine.
Tout le monde se perd
on
en conjecture
là-dessus.
On
est dans la légende urbaine. Mais... Tu parles de cryptologie, de stéganographie. Quoi ça?
D'accord. Alors, je vais te répondre par un petit message ici que j'ai fait.
Il m'a vraiment fait un petit message. Les gens ne le voient pas parce qu'on est à la radio, mais là, je suis en train d'ouvrir un petit message que Martin m'a donné. Et que c'est un petit peu comme un biscuit chinois, là. Tu peux me rendre au bout. Et c'est écrit, c'est formidable, « Où Ubal de Ira, chaque arbre tordu, être et rhinocéros infirmes, naguère entendront. » Bon, alors là, c'est un message codé, cela.
Pas tout à fait. Ça, c'est pas de la cryptographie. C'est pour te donner un exemple de ce qu'on appelle la stéganographie. C'est que dans le message que tu as là, la phrase que tu as là, il y a une phrase cachée, alors tu vas prendre la première lettre de chaque mot.
Ah, mon Dieu! OK. O-U-I, oui. C-A-T. Ah, c'est mon nom.
Alors, c'est juste pour te donner un exemple de stéganographie. Qu'est-ce que c'est la stéganographie? C'est l'art de la dissimulation. Alors, l'objet de la stéganographie est de faire passer inaperçu un message dans un autre message et non de le rendre nécessairement intelligible
C'est très pédagogique, hein, toi? C'est dommage que les gens maison, on est à la radio. Pas cette possibilité-là. Moi, j'ai tout compris.
Alors, pour prendre une métaphore, si tu veux, la stéganographie, ça serait enterrer son argent dans le jardin, tandis que la cryptographie, ça serait l'enfermer dans un coffre-fort.
OK.
Alors, mais évidemment, il n'y a rien qui nous empêche de faire les deux.
Oui.
Ce que notre histoire du début, le Cicada 3301, fait allègrement, là, c'est codé, caché. Je vais te donner un exemple. La première énigme, si tu veux, c'était de prendre l'image de la bibitte en question et à tous les 100 pixels, tu changeais la couleur. Et ça te donnait l'adresse, une adresse URL Internet, qui arrivait sur un canard. Une image de canard. En tout cas, tu vois un peu le genre.
Ça prend des gens qui ont beaucoup de temps à perdre. Mais c'est long faire ça.
Et
là.
Ça, c'est les énigmes du début. Là. Quand on va plus loin, là, ça devient complètement hallucinant. On y reviendra. Continuons sur nos définitions. La cryptologie, quant à elle, par rapport à la stéganographie, qui était juste de dissimuler le message, là, la cryptologie, c'est la science du secret, étymologiquement. Et ça englobe... La cryptologie, ça englobe la cryptographie, qui est l'écriture secrète comme telle, et la cryptanalyse, qui est l'analyse de cette écriture-là. Alors, ce que la NSC fait, c'est de la cryptanalyse. Quand nos messages privés, entre guillemets, sont encryptés, c'est là qu'ils font la cryptanalyse pour essayer de saisir de quoi on parle.
J'imagine que ça fait longtemps que ça existe, ça, que ça fait longtemps que les êtres humains s'amusent comme ça à faire des messages et de s'envoyer des petits papiers comme tu m'as fait.
Ouais, quoique là, évidemment, oui, Catherine, c'est pas un message très, très secret. Mais aussitôt qu'on parle de secret, et dans l'Antiquité, on parlait surtout de secret militaire. Je pense que le militaire a beaucoup... parce que c'est des informations qui sont importantes, qu'il ne faut pas que l'ennemi découvre, si tu veux. C'est vraiment tout l'aspect militaire qui a donné son essor et à la cryptographie et à la stéganographie. Alors, ces deux trucs-là existent depuis l'Antiquité. On a des exemples, je vais t'en lire quelques-uns. Alors, ça commence en 484 avant notre ère. On parle de Xerxès Ier, fils de Darius, roi des Perses, qui décide de se préparer une armée gigantesque pour envahir la Grèce à ce moment-là, qui était son ennemi. Alors, 4 ans plus tard, lorsqu'il lance son offensive, les Grecs sont depuis longtemps au courant de ses intentions. C'est que Démarate, ancien roi de Sparte, réfugié auprès de Xerxès, a appris l'existence de ce projet et décide de transmettre l'information à Sparte. Alors, comment il s'est pris? Il a pris une tablette, parce qu'à cette époque-là, on écrivait sur la cire, n'est-ce pas? Tu avais une tablette de cire et là, on gravait...
Dans la cire,
ces trucs-là. Alors, il a gratté la cire complètement de la tablette, puis il a écrit sur le bois les projets de Xerxès et là, il a recouvert le tout de cire.
Ah, wow.
Comme ça, le porteur... S'il était intercepté, ben, il y avait une tablette vierge, comprends-tu? Fait que ça passait inaperçu.
Rusé.
Alors ça, c'est de la stéganographie. Okay. D'autres exemples de stéganographie qu'on peut avoir, c'est un autre type de la même époque. Lui, son truc, ça a été, il a fait raser la tête de l'esclave, il a tatoué le message, puis il a fait repousser les cheveux. Là, il l'a envoyé. Fait que là, l'autre à l'autre bout, comprends-tu? C'est pas compliqué. C'est, tu rases le gars, puis voilà le message.
Mais c'est assez épouvantable.
Ben, j'ai vu du monde sur la rue qui... En tout cas... c'est épouvantable, oui et non. Je veux dire, l'idée de la stéganographie, c'est de cacher le message.
Il est prêt que le message secret
mais là, il faut plus qu'il se recoupe les cheveux, de toute évidence. Il faut qu'il garde les cheveux longs. En Chine, qui est un autre endroit, mais je veux dire, qui avait les mêmes besoins de garder les choses secrètes, on écrivait les messages sur de la soie. Ensuite, on les plaçait dans une petite boule de cire. Et là, on avalait la boule de cire.
Ah.
Alors, là, c'était bien caché aussi.
Ouais, c'est de la récupérer après, hein?
Ouais, ben là, ça, c'est une autre histoire. Et chose intéressante aussi, on a Pline l'Ancien.
Oui.
Où est-ce que j'ai le fil de prix dans mes lunettes?
Ton fil.
Je vais essayer d'arranger ça. Bon, voilà.
Voilà.
Alors, on a Pline l'Ancien qui, pour la première fois, on parle d'un siècle avant Jésus-Christ environ, qui a utilisé l'encre invisible. On a tous fait ça étant jeune avec du jus de citron. Là.
Oui, oui.
Tu écris ton message sur le papier, tu laisses le tout sécher, on ne voit absolument rien. Et là, tu passes le tout en haut d'une chandelle. Puis là, oh, comme par magie, le tout apparaît. Alors ça aussi, c'est la stéganographie. Alors, on peut voir que ça prédate un peu la cryptographie. La cryptographie est apparue un petit peu plus tard. Le premiers à avoir vraiment utilisé quelque chose du genre.
Je veux juste pour que les gens nous suivent bien, sténographie, c'est que le message...
Pas sténographie, stéganographie.
Stéganographie.
Faut pas mêler les deux.
Tu fais bien de me reprendre. Le message, il n'est pas encodé, il est clair, il est juste caché.
Caché, oui, c'est ça. Ça. Il est dissimulé, soit à travers un autre message ou caché d'une façon quelconque. Là, comme
alors que la cryptographie qu'on va aborder, là, c'est différent. Là, ce sont des messages qui sont codés.
C'est que si tu trouves le message, tu le comprends pas.
C'est ça.
En fait, c'est qu'il est codé, effectivement. Et le premier à utiliser ça, c'est notre brave Jules César. Et que le code qu'il utilisait, d'ailleurs, porte son nom. Ça s'appelle encore le code César ou le chiffre César. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on a pu faire quand on était plus jeune. Essentiellement, c'est de dire, de décaler l'alphabet. Alors, le nombre de César, tout ce que tu as à savoir, c'est, mettons, ce message-là, c'est 5. Alors, tu prends chaque lettre et tu les décales de 5 position, si tu veux.
Oui.
Alors, le A devient E, etc., etc. Fait que quand tu lis le message, ça ne veut pas dire grand-chose, ce n'est pas des vrais mots. Alors, c'est César qui a inventé ça. C'est une substitution mono-alphabétique et c'est la plus ancienne qu'on a retrouvée.
Découvert, oui.
Ça fonctionnait bien parce qu'il faut dire qu'à l'époque, le taux d'alphabétisation était relativement faible. Alors, évidemment, les gens voyaient ça puis pour eux, ben, c'était du chinois.
Tout à fait.
Si tu me passes l'expression. Après ça, ben, il y a eu plusieurs améliorations parce que le code de César est quand même relativement simple. Tu sais, je veux dire, tu as 26 ou 25 façons, en fait. Tu essayes 25 fois puis tu finis par trouver le code. Là.
Ouais.
Après ça, on a eu le carré de Polybe qui, lui, c'était un petit peu plus compliqué. Là, on parlait d'une matrice de 25 cases. On convertissait les chiffres en lettres, les lettres en chiffres, pardon. C'était quand même beaucoup plus complexe. Là.
Et ça vient d'où, ça?
C'est un grec, ça.
C'est un historien.
C'est un grec un petit peu plus tard que César, mais pas beaucoup, là.
OK. Toi, cette méthode-là, on n'en a pas beaucoup entendu parler. Hein? Moi, ça ne me dit rien du tout, ça.
C'est le début,
alors que le code
quand même,
César,
Oui, mais ça, c'est d'une grande simplicité, quand même. Là. Et tout ça, bien, évidemment, ça s'est raffiné là, au cours des siècles. Il y a quand même eu les Arabes là, qui ont fait de l'encryption un petit peu plus évoluée. Et le Moyen Âge a été quand même relativement tranquille. Il faut presque aller là, à ce moment-là au 20e siècle là, pour voir un changement là,
dans
en
ces
termes
méthodes-là.
De qualité. Ouais. Ouais, c'est ça.
Et j'imagine que le 20e siècle a été une période d'essor pour... tous ces systèmes-là, là, avec les deux grandes guerres, ça a dû beaucoup, beaucoup contribuer.
Oui, tout à fait. Encore là, le militaire a beaucoup contribué à l'essor de la cryptographie et de la stéganographie dans une moindre mesure, par exemple, parce que là, on parle vraiment plus de cryptographie.
Okay.
La Première Guerre mondiale, ça prend un gros essor, là, les codes et tout ça. Les Français, chose quand même remarquable, sont très, très bons à déchiffrer les messages ennemis, ce qui leur donne un bon avantage.
Durant la Première Guerre.
Et plusieurs, et on revoit ça à la Deuxième Guerre aussi par la suite, un lieutenant aurait quasiment réussi à lui seul à changer le cours de l'histoire en interceptant et en comprenant les messages, surtout en déchiffrant les messages ennemis. Et ce qui a fait dire à Clémenceau qu'à lui tout seul, il valait un corps d'armée.
On n'a pas le nom de ce monsieur?
Non,
c'est quand même impressionnant.
J'ai pas trouvé le nom, mais ça revient aussi à la Deuxième Guerre mondiale. C'est sûr que rendu là, la rapidité des transmissions s'est beaucoup améliorée parce qu'on parle de transmission radio, de transmission télégraphe ou enfin de différentes transmissions. Sauf que coder et décoder, c'était fait à la main. Alors, ça demeurait toujours très lent et ça pouvait prendre des heures. Là. On interceptait le message, mais bon, on en fait quoi? Alors là, t'essayes, au moment donné, hop, tu trouves la clé et là, ça fonctionne. Mais il y avait quand même une grosse distinction entre la transmission du message et le décodage du message.
Oui, c'est ça. C'est le décodage qui était compliqué.
Exact. Et on arrive à la Deuxième Guerre mondiale et là, on arrive à la fameuse machine allemande Enigma. Sur lequel il y a eu des films de faits à gauche, à droite.
Ah oui?
C'est une grosse affaire là, quand même pendant la Deuxième Guerre mondiale, tout ce qui entoure cette machine-là, Enigma, qui ressemble essentiellement à une grosse machine à écrire, mais beaucoup plus complexe. C'est une machine mécanique avec des rouleaux. Bon, tu peux écrire et tout ça et tout ça. Et la particularité de ça, c'est que quand tu tapais une lettre, mettons, tu tapes A, ça donnait quelque chose, ça écrivait quelque chose. Et la deuxième fois que tu retapais A, ça donnait une autre affaire.
Ah bon?
Alors, ça pouvait marquer, mettons, Z, K. Puis là, tu t'en allais comme ça. Puis ça donnait vraiment quelque chose de très, très difficile à déchiffrer. Et c'était la pièce de communication, si tu veux, des Allemands. C'est une machine qui a été quand même inventée en 1919 par un Danois, dont je ne me rappelle plus le nom, mais qui a été repris après ça par l'armée allemande. Et c'est dans la cryptographie, là, c'est vraiment une pièce importante là, au niveau historique, si tu veux. Ça a été, bon, percé quand même à la longue, parce que ça l'a, c'est pas foolproof, là, si tu me passes l'expression. Et, par exemple, un A ne donnera jamais un A.
Donc, en partant, on éliminait. On pouvait éliminer que c'était
des
pas
choses comme ça, tranquillement, pas vite. Et à un moment donné, tu finis par... Et ils ont percé le code, essentiellement. Mais ils ont fini par mettre la main sur une machine aussi, à un moment donné.
Ça a dû aider.
Mais même à ça, quand tu ne connaissais pas la position des rouleaux au départ, tu ne peux pas rien faire. Finalement, ça a été le fait qu'ils transmettaient aussi leurs prévisions météo de façon codée. Alors, à un moment donné, c'était tout le temps les mêmes mots qui revenaient. Puis là, ils ont réussi à percer tout ça.
Ils ont quasiment donné la clé en faisant ça.
Excuse-moi. Par contre, vois-tu, les Alliés, eux, ont eu une façon totalement différente d'approcher le problème. Aux États-Unis, quand on se battait contre les Japonais, on s'est dit, bon, ben là, c'est bien beau tout ça, mais traîner une machine, commencer à décoder, ça devient rapidement... c'est gros, oui, c'est complexe, bon, etc. Ça prend quelqu'un qui est capable de l'opérer, tout ça. Alors, eux, ce qu'ils ont fait, tout simplement, ils ont adopté, si tu veux, ce qu'on a appelé par la suite le code Navajo, qui est une langue indienne qui se parle aux États-Unis, mais par très peu de personnes, et qui est une langue très particulière, très complexe, que quand tu ne connais pas, là, je veux dire, c'est un code en soi. Et évidemment, les Japonais n'avaient
aucune idée de
ce que pouvait avoir l'air de le Navajo. Donc, ils utilisaient ça couramment là, pendant la guerre du Pacifique. Là, ils envoyaient des messages sur les ondes radio là, en Navajo. Puis tout ce que ça prenait, ben, c'était un gars qui savait parler à l'autre bout. Bingo! C'était aussi simple que ça.
C'était des manières de faire qui pouvaient fonctionner en situation de guerre parce que c'était très circonstanciel, mais c'est pas des systèmes qui peuvent fonctionner dans un domaine d'espionnage, par exemple, parce que là, tu comprends bien que c'est une autre langue, tu trouves quelqu'un pour...
Oui, tout à fait.
Que ça devienne beaucoup plus sophistiqué que ça. Là.
Tout à fait. Aujourd'hui, la situation est totalement différente. En fait, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est né dans les années 70. Tous les systèmes de cryptographie qu'il y a avant, on parle de système à clé secrète. Alors, il faut avoir une clé pour décoder le message. Et la clé, c'est la formule, si tu veux, qui te permet de dire, en faisant ça, en passant le message à travers cette formule-là, je vais avoir mon message d'origine. Aujourd'hui, c'est différent. Depuis les années 75-76, on a maintenant deux clés. Alors, il y a une clé publique qu'on appelle, qui, elle, permet d'encrypter le message et une clé privée qui, elle, permet de le décrypter.
Okay.
Alors, c'est ça, ça s'appelle un système asymétrique. Et c'est ce qu'on utilise, là, tout ce qu'on utilise présentement sur Internet. Là, quand on voit HTTPS, là, puis que...
On parle des années 75-76, mais j'imagine que ça vient avec l'invention de l'ordinateur, là, ces systèmes-là.
Oui, et ce qu'il y a, la seule chose qui a changé, en fait, c'est la grosseur des clés. Les clés vont en devenant de plus en plus grosses et complexes. Au début, on parlait de clés de quelques bits. Là, après ça, on a parlé de clés de 80 bits, de 128 bits, etc., etc. Là, je ne sais pas où ils sont rendus, probablement des milliers de bits. Et là, ça prend une grosse machine pour essayer de passer à travers ça avec de la force brute, là, c'est-à-dire prendre le code puis essayer jusqu'à temps que ça marche. Et là, c'est ça, ça prend une grosse machine, ce qui est à la portée d'institutions comme la NSC ou de choses comme ça, là, qui peuvent désencrypter, décoder finalement ce qui est supposément pas décodable.
Donc, la cryptologie asymétrique, j'imagine que ça occupe beaucoup de gens aujourd'hui quand on pense à tout l'espionnage industriel qui se fait, quand on pense à tout ce qui existe au niveau de l'espionnage politique. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui doivent passer leur temps à faire ça.
Décoder. Des gens ou des machines, en fait. L'idée, c'est que, tantôt par rapport à l'interview précédente, pas les spectacles, mais l'autre.
Oui, celle de Benjamin sur les...
Celle qui parlait de vie privée, d'Internet et de tout et tout. C'est sûr que notre vie privée, on s'entend que ce n'est pas un secret militaire, d'accord?
Oui.
Mais si on ne fait rien, si on ne prend aucune mesure, si tu veux, pour que ce soit un petit peu plus privé, ça demeure là que tout le monde peut les lire et tout le monde peut faire quoi que ce soit. Alors, c'est un petit peu la responsabilité de chacun d'essayer de faire en sorte que ce soit plus difficile, si tu veux, de lire ce qu'on écrit ou d'être capable de voir ce qu'on fait. Et là, bon, il existe des réseaux. Aujourd'hui, on pense au réseau Tor, T-O-R, qui, lui, est une espèce d'Internet underground, si tu veux, où une fois que tu as downloadé le logiciel qui te permet d'accéder au réseau, ce que tu fais là, c'est pas mal privé, là, quand même. On pense à Silk Road qui était là, qui est une espèce de eBay de drogue, là, etc. Il y a beaucoup d'activités illégales qui se font sur Tor.
Ah, tiens.
Mais Tor est un endroit où tu peux probablement avoir un semblant de vie privée encore. Là. Quoique la NSC s'y attaque.
C'est d'essayer de régler le mal par le même remède, en fait.
C'est une course éternelle.
Ben oui, c'est ça. Là.
La cryptographie et la cryptanalyse, ce sont deux choses qui se suivent depuis toujours, depuis que ça existe et qui se courent après. Là.
C'est sans fin, là.
Ben, c'est sans fin. Je ne sais pas où ça va aller. ça prend de plus en plus des grosses machines et des efforts incroyables. Pour en revenir à ce qu'on parlait au début, l'histoire des puzzles, là, je veux dire, c'est totalement capoté.
toi, tu parles de la cigale.
La cigale dont on parlait au début, là, écoute, ça utilise évidemment la stéganographie, la cryptographie, les nombres premiers. Ça prend aussi une grande culture là, pour démêler tout ça. Là. Ça prend quelqu'un... Quand ils disent qu'ils cherchent des gens intelligents, là, c'est pas une joke. Là. C'est peut-être juste un jeu, mais... Pour passer au travers, ça prend quelqu'un là, qui s'y connaît dans ces domaines-là, en cryptographie et tout ça, et qui a, comme je vous disais, une culture générale là, assez exceptionnelle. Au début, ça, on parlait de méthode de chiffrement César. C'est comme ça que le gars a commencé à essayer de percer le mystère. Puis là, bon, ben, il a trouvé des URL, de fil en aiguille. Là, les indices sont devenus de plus en plus compliqués. Ça prenait des connaissances technologiques, philosophiques, musicales. Il fallait appeler à des numéros de téléphone qu'il fallait suivre, des messages accrochés à des lampadaires. À un moment donné, il y avait des posters dans 13 villes de la planète. Un à Hawaï, un autre à Séoul. Puis sur les posters, qui avaient toujours la bébite dessus, puis 3301 en bas, tu avais, tu sais, les petits carrés qu'on peut scanner avec nos téléphones intelligents. Là,
oui.
Il y avait ça sur chaque poster. Ça donnait d'autres indices. Alors, c'est évident que tout ça n'est pas l'œuvre de quelqu'un dans son sous-sol. Là. Il y a une organisation.
C'est vraiment étrange.
Il y a une organisation.
C'est vraiment
étrange.
On
dirait un film. Là, un mauvais scénario d'Hollywood. Oui. Mais bon...
C'est peut-être un truc publicitaire.
Écoute, je ne serais pas surpris de voir Honda sortir un auto l'année prochaine qui s'appelle Oh, par miracle, Cicada 3301. C'est très possible. C'est d'ailleurs une des choses que les gens disent en regardant ce phénomène-là.
Ben oui.
C'est peut-être un stunt publicitaire ou encore un truc de recrutement ou un jeu. On ne sait toujours pas c'est quoi, mais c'est à suivre.
Oui, on me fait signe qu'on achève. Il nous reste peut-être une minute. Oui. 30 secondes pour... c'est à suivre, c'est terminé.
Bien, en fait, je ne sais pas ce qui va se passer avec ça, mais je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas terminé l'histoire de Cicada 3301.
C'est sûr.
On va avoir...
Quand on aura la fin de l'énigme, tu viendras nous le dire, Martin.
Ça pourrait être intéressant, effectivement.
Merci beaucoup, Martin. On va terminer avec David, qui a une dernière citation pour nous.
Oui, alors c'était pour justifier, moi, l'espionnage, hein, parce qu'on sait qu'on est en danger. Alors, déjà, en 1954, la Maison-Blanche avait commandé une commission d'études, la commission Doolittle. Je ne sais pas si Martin, ça te rappelle quelque chose, à part
le docteur,
mais non, pas lui. Je vais vous faire tout de suite la citation, une des citations, en tout cas, du rapport. Il est maintenant clair que nous sommes face à un ennemi implacable dont l'objectif déclaré est la domination du monde par tous les moyens et à n'importe quel prix. Il n'y a pas de règles dans un tel jeu. En conséquence, les normes acceptables du comportement humain ne s'appliquent pas. Si les États-Unis veulent survivre, le traditionnel concept américain de fair play doit être reconsidéré. nous devons développer des services efficaces d'espionnage et de contre-espionnage, et nous devons apprendre à renverser, saboter et détruire nos ennemis par des méthodes plus intelligentes, plus sophistiquées et plus efficaces que celles qu'on utilise contre nous. Il peut devenir nécessaire que les Américains soient informés de cette philosophie fondamentalement répugnante, la comprennent et la soutiennent.
Qui a dit ça?
C'était dans le rapport Doolittle.
De la NSC.
Non, plutôt commandé par la Maison Blanche. Et je vous fais une phrase qui est vraiment importante.
On a fini.
Okay,
merci beaucoup, David.
Je
vais me faire couper le sifflet. Remerciements. Merci à David, notre libraire, notre hôte, pour son accueil chaleureux, pour la sagacité de ses commentaires. Merci à mes invités, Émile Grigoroff, Benjamin Gosselin-Clich, Gab Paquette et Martin Léveillé. Merci à mon équipe, Anaëlle Beauchemin, à la mise en onde, et Big Nick, le grand Manitou, qui héberge notre émission sur son site Radio Fiat Lux. Merci à CKIA pour sa collaboration. Je vais vous souhaiter une bonne fin d'année, car nous serons de retour en 2014. C'était La Voix de la librairie Québec.
Ah, merci, j'ai eu le droit de la part du directeur. Une mini citation de Goethe qu'on ne connaît pas. Alors, nul n'est plus désespérément esclave que celui qui se croit libre à tort. Voilà Goethe, merci.
Noël, c'est l'amour. Viens chanter, toi, mon frère. Noël, c'est l'amour. C'est un cœur éternel.
Allô, c'est Georges-Fernand Poirier qui vous donne rendez-vous pour le réveillon de Noël, le 17e réveillon de Noël de l'abbé Gérard Tremblay, qui sera diffusé le 24 décembre de 22h à 4h du matin sur radiofiatlux.ca. On va faire tirer 50 bons alimentaires pour les personnes à faible revenu. Une collaboration de GFP Productions, radiofiatlux.ca et CKIA FM 88,3. Tendez l'oreille, on parle de vous.